Vous écoutez France Culture, il est 8h. Le journal Camille Magnard. Bonjour Camille.
Bonjour. Kim Jong-un qui renonce à ses tirs de missiles balistiques et essais nucléaires, au moins le temps de donner une chance à la diplomatie avec le Sud. Le président nord-coréen doit rencontrer ces prochaines semaines celui de Corée du Sud, justement, puis Donald Trump.
Le Liban accueille plus d'un million de réfugiés syriens, dont des milliers sont maltraités, discriminés ou expulsés de leur logement. Triste constat adressé par l'ONG Human Rights Watch que nous détaillerons depuis Beyrouth avec Laure Stéphan.
En Afrique du Sud, l'épreuve du feu social pour le nouveau président Cyril Ramaphosa, confronté à des manifestations dans le nord-ouest du pays où le système de santé publique a été ruiné par des affaires de corruption au sein du parti présidentiel.
En France, les députés se préparent à passer tout le week-end sur l'examen du projet de loi Asile et Immigration. 27 articles sur 40 restent à discuter avec des centaines d'amendements déposés par l'opposition et des débats toujours très houleux.
Dans ce journal, nous entendons le syndicaliste CGT de PSA, Jean-Pierre Mercier, solidaire de ses collègues allemands. Le groupe Auto français a racheté l'été dernier Opel et son patron Carlos Tavares veut à présent forcer l'Allemand à supprimer 3700 emplois. Nous évoquerons également en fin de journal la stratégie média d'Arnaud Lagardère, prêt à vendre elle et d'autres magazines de son groupe à un patron de presse tchèque. L'invité de la deuxième heure des matins est une invitée, Caroline.
Oui, c'est la députée européenne Karima Delli qu'on est très heureux d'accueillir dans ce studio. Elle est députée du groupe Europe Écologie Les Verts. Elle est présidente de la commission transport et tourisme, de très nombreux sujets. Oui, c'est vous. De très nombreux sujets à évoquer avec elle.
Il renonce donc provisoirement à ses armes de dissuasion massive. En Corée du Nord, Kim Jong-un annonçait la nuit dernière le démantèlement du site militaire où étaient menés les tirs de missiles balistiques et les essais nucléaires censés tenir en respect depuis des années les ennemis du régime nord-coréen. Mais les ennemis d'hier sont les interlocuteurs d'aujourd'hui. Kim va rencontrer la semaine prochaine son homologue sud-coréen, puis il est prévu qu'il s'affiche avec Donald Trump à la fin du mois de mai. Le président américain, qui n'a pas caché son enthousiasme cette nuit face au geste de bonne volonté de Pyongyang. On voit ça depuis New York avec Marco Voltaire.
C'est une très bonne nouvelle pour la Corée du Nord et pour le monde. Un grand progrès, j'attends notre sommet avec impatience. Depuis sa résidence en Floride, Donald Trump n'a pas perdu de temps pour se féliciter sur Twitter de l'annonce nord-coréenne. Il n'a cependant pas réagi à la partie du texte dans laquelle Kim Jong-un assure que le site d'essai nucléaire peut être fermé parce qu'il a rempli sa mission. Avec ce tweet, le président américain continue donc à naviguer entre enthousiasme, confiance et prudence lorsqu'il commente le sommet historique qui se prépare avec Kim Jong-un d'ici fin mai, début juin. Donald Trump s'est d'un côté réjoui cette semaine de la qualité de l'entretien secret qui s'est récemment déroulé entre son futur secrétaire d'État Mike Pompeo et le leader nord-coréen à Pyongyang. C'était juste avant d'adopter un ton un peu plus modéré. Si je pense que notre rencontre ne sera pas fructueuse, nous n'allons pas nous y rendre.
Un ton beaucoup plus modéré cette fois au Japon où l'on se refuse à tout satisfecit, rappelant que les essais de missiles intercontinentaux nord-coréens sont seulement suspendus et que Pyongyang n'y a pas définitivement renoncé. La Chine reste très prudente. Elle estime tout de même que la décision de la Corée du Nord va améliorer la situation dans la péninsule.
C'est un rapport qui épingle le Liban. Human Rights Watch, l'organisation de défense des droits humains, accuse des municipalités libanaises d'avoir mené une politique discriminatoire envers les réfugiés syriens.
Ils sont plus d'un millier dans le petit pays du Cèdre, un million de réfugiés syriens, pardon, et des milliers d'entre eux qui ont été chassés de leur logement entre 2016 et début 2018, et ce sans raison valable, poussé vers toujours plus de précarité, selon donc l'ONG Human Rights Watch, et des précisions depuis Beyrouth avec Laure Stéphan.
Des réfugiés syriens chassés de leur maison sans motif valable par des responsables municipaux, voire dans certains cas passés à tabac. Un gouvernement incapable de mettre fin à ces pratiques discriminatoires, c'est ce que révèle le rapport de Human Rights Watch publié aujourd'hui. Selon Bassam Khawaja, chercheur au bureau de Beyrouth de l'Organisation de défense des droits humains, des expulsions de ce type ont lieu depuis des années. Parmi les cas les plus récents, certains des réfugiés expulsés se sont relogés dans d'autres localités libanaises, d'autres ont repris la route pour la Syrie. La question des réfugiés est instrumentalisée par la classe politique au Liban. La présence massive de Syriens suscite des tensions régulières. Même si, vu leur nombre, près d'un million, les incidents restent mineurs. Selon l'enquête de Human Rights Watch, bon nombre des expulsions recensées ont eu lieu dans des municipalités chrétiennes. Elles ont notamment été alimentées par la rhétorique anti-réfugiés de leaders politiques et par un fait divers, le meurtre d'une femme chrétienne commis par un employé syrien. Le Liban se serait bien passé de ce rapport à quelques jours de la réunion à Bruxelles du groupe des Amis de la Syrie. Il y sera question des réfugiés syriens et Beyrouth espère lever des fonds importants. Tout en demandant la poursuite de ce soutien financier, plusieurs responsables, à l'instar du président Michel Aoun, appellent au retour des réfugiés en Syrie. Mercredi, près de 500 Syriens ont quitté le Liban pour leur village près de Damas où les combats ont cessé. Des retours qui n'ont pas été forcés mais qui concernent des réfugiés dans une situation précaire au Liban. D'autres départs sont en train d'être préparés.
Laure Stéphane au Liban pour France Culture. En Afrique du Sud, à présent, le président Cyril Ramaphosa a dû quitter précipitamment un sommet du Commonwealth au Royaume-Uni, hier. Il a dû revenir en Afrique du Sud précipitamment et affronter la colère populaire dans la province du Nord-Ouest. Ça fait près d'une semaine maintenant que là-bas, des violentes manifestations secouent la ville de Maïkeng, des magasins pillés, des véhicules incendiés. Un premier grand défi pour Cyril Ramaphosa, dont le parti présidentiel, l'ANC, est directement visé par la fronde de la rue, Lisa Fabian.
Les manifestations contre la mauvaise qualité des services publics sont fréquentes en Afrique du Sud, mais il est rare que le président de la République se rende sur le terrain. Confronté à son premier défi depuis son accession au pouvoir, Cyril Ramaphosa a décidé de se rendre en personne dans la région du Nord-Ouest pour négocier une sortie de crise avec les dirigeants de son parti, l'ANC. Les habitants de la région réclament la démission de leur gouverneur, accusé d'avoir détourné des fonds avec la complicité de proches de l'ancien président. Président Jacob Zuma. Le système de santé est en ruine dans la province du Nord-Ouest et la mort de deux patients qui s'étaient vus refuser l'accès à la clinique locale en raison d'une grève a fait exploser la colère de la population. Cette crise est aussi le résultat de la corruption généralisée dans la classe politique. Le gouverneur de la province bénéficie de soutien au sein du Congrès national africain et il refuse toujours de démissionner. Vendredi soir, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé que le dialogue se poursuit pour tenter de sortir de l'impasse alors que la population laissée pour compte s'impatiente.
Lisa Fabian à Johannesburg.
France Culture 8h07, suite du journal. Dans l'actualité française à l'Assemblée nationale, il reste encore 27 articles sur 40 à étudier avant de procéder au vote sur le projet de loi asile et immigration.
Avec à chaque fois des dizaines d'amendements discutés par l'opposition, autant dire que les députés ont dû repousser leur départ en vacances d'hier soir jusqu'à ce dimanche. Les débats se sont poursuivi cette nuit jusqu'à 1h du matin, toujours aussi tendu sur le fond du texte et sur la forme des débats, Stéphane Robert.
Les élus de gauche, comme la députée communiste Elsa Faucillon, multiplient les amendements pour essayer d'adoucir le texte de loi.
À chaque fois, nous voyons se réduire les droits pour les plus vulnérables. Je crois que toutes et tous, nous devons nous inquiéter de cette justice d'exception qui va se propager pour toutes et tous.
Ce procès récurrent en brutalité de la part de la gauche a le don d'agacer les députés En Marche, comme Florent Boudier.
Nous tiendrons bon parce que ce texte est protecteur. Et il faut en finir avec ces mises en cause sur la qualité de ce texte ou son caractère d'inhumanité.
Les élus de droite ne sont pas en reste, eux aussi multiplient les amendements, mais eux c'est pour durcir la loi, à l'image du député LR Fabien Desphilippos qui a proposé de faire payer 200 euros les demandeurs d'asile qui font appel d'un rejet de leur dossier.
Nos compatriotes qui travaillent tous les jours et qui payent leurs impôts ne peuvent pas comprendre que le demandeur d'asile ne prenne pas en charge une partie, monsieur le ministre, du coût de cette procédure.
Au bout du compte, tout ça n'enrichit pas vraiment le texte de loi.
Je vais donc mettre aux voix successivement ces différents amendements qui ont reçu tous un avis défavorable de la Commission et du gouvernement. Le 315, qui est pour, qui est contre, n'est pas adopté.
Il reste encore comme ça plusieurs centaines d'amendements et 27 articles de loi à examiner. Nous serons encore là dimanche, a prévenu hier soir le président de séance.
En tout cas, les débats reprennent dans l'hémicycle ce matin à 9h30. Bonjour Karima Deli.
Bonjour.
Députée, eurodéputée Europe Écologie Les Verts et invitée donc, deuxième invitée des matins aujourd'hui. Je vous ai vu pas mal réagir pendant la diffusion de ce reportage. Alors on est au Parlement national, mais j'imagine que ces débats sur la politique d'immigration du gouvernement ne vous laissent pas de marbre.
Non, ça m'irrisse et je trouve qu'on marche sur la tête. On marche sur la tête parce qu'aujourd'hui, on se contente sur la politique d'immigration de montrer les muscles, de faire encore des lois beaucoup plus répressives. Et on joue sur les peurs, alors que c'est pas ça qu'on demande, justement, de la France. La France, c'est liberté, égalité, fraternité. Lorsque dans notre pays, aujourd'hui, nous avons un délit de solidarité, qu'on n'arrive pas à abroger à l'Assemblée nationale, le délit de solidarité... Pour moi, c'est un crève-cœur, je vous le dis. Comment aujourd'hui on peut sanctionner des gens qui aident, qui rendent service, qui portent secours à des plus vulnérables qui sont en souffrance et qui viennent de l'autre bout de la terre.
Donc ce texte du projet de loi Asile-Immigration, qu'est-ce qu'il dit de la politique, de la philosophie du gouvernement sur ces questions ?
Moi, je crois qu'il passe à côté du fait de redorer le blason de la France. La France, au niveau européen comme dans le monde, a toujours été vue comme une terre d'accueil. Et justement, c'était l'occasion ou jamais de redorer notre blason d'humanisme, de solidarité, de fraternité, mais de montrer à quel point aussi on respecte l'ensemble des textes européens internationaux, puisque aujourd'hui, tous les textes montrent qu'ils ne sont pas respectés en France. Et ce sera aussi le coup de gueule de Jacques Toubon, qui dira que tous les textes sont bafoués. Donc moi, j'appelle, messieurs et mesdames les députés, à ne pas voter... À ne pas voter ce texte, parce que là on touche aux droits fondamentaux et les droits fondamentaux doivent être respectés, alors que dans la loi ce n'est pas respecté.
Voilà qui est clairement exprimé. Merci beaucoup Karima Deli, invitée de cette deuxième heure des matins. On vous retrouve dès la fin du journal vers 8h15. Il y a moins d'un an, quand il bouclait le rachat d'Opel, le PDG de PSA, Carlos Tavares, s'était engagé à préserver les usines du constructeur automobile en Allemagne. Il avait oublié de préciser ses intentions en matière de maintien des emplois et le chiffre est tombé finalement hier. 3700 suppressions de postes exigées donc d'Opel en Allemagne d'ici à 2020. Le syndicat IG Metall y voit des méthodes de la part du nouveau propriétaire qui confine au chantage. Mais la méthode Tavares n'étonne pas, par contre, le représentant CGT chez PSA, Jean-Pierre Mercier.
Tavares fait du Tavares. Son objectif, c'est de supprimer des emplois, de faire exploser la productivité, la rentabilité. Pour tous ceux qui vont rester, ça veut dire des charges de travail qui vont exploser sur chacun d'entre eux, qu'on soit ouvrier, agent de maîtrise, technicien, ingénieur, cadre, toutes les catégories, c'est évident, vont être touchées. C'est vraiment la même politique qu'il veut appliquer à Opel qu'il l'a appliqué à PSA. À PSA, en France, dans ses usines, il y a eu 25 000 emplois CDI supprimés ces 5 dernières années. C'est immense et c'est vraiment la politique de la famille Peugeot, c'est-à-dire de faire travailler de moins en moins de travailleurs, mais en les faisant travailler de plus en plus et en les payant de moins en moins. Il va falloir que nos camarades en Allemagne trouvent le moyen de répondre collectivement à ces attaques qui sont inadmissibles pour un groupe, je le rappelle, qui génère des milliards de bénéfices chaque année.
Des propos recueillis par Maxime Debs, une cinquième expertise médicale en moins de 10 ans ordonnée pour Vincent Lambert. Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a donné raison hier aux parents de cet homme qui est, rappelons-le, hospitalisé dans un état végétatif depuis un accident de la route en 2008. Les médecins du CHU où Vincent Lambert est pris en charge avaient décidé le 9 avril d'arrêter définitivement les traitements. Ses parents avaient déposé un recours en référé. Ils affirment que l'état de santé de leur fils a évolué positivement depuis la dernière expertise qui avait été ordonnée en 2014. Une semaine mouvementée qui s'achève dans la presse écrite en France. On y a notamment appris la tenue de négociations entre le groupe Lagardère et le patron de presse tchèque, Daniel Kretinsky. Des négociations sur la vente de plusieurs magazines comme Elle, version Femina, Arts et Décorations ou encore Télé 7 Jours. Et si cette vente devait être actée, il ne resterait alors plus que 3 médias dans les mains de Lagardère, Europe 1, le JDD et Paris Match. Une stratégie de désengagement assumée par le patron de presse Maïwenn Bordon.
Arnaud Lagardère veut se débarrasser de ce qui ne l'intéresse pas. C'est l'analyse du spécialiste des médias Patrick Evenot. En 2007, 4 ans après le décès de son père Jean-Luc, Arnaud Lagardère se sépare de titres de presse quotidiennes comme La Provence, Nice Matin et Corse Matin. En 2013, il vend également 10 magazines dont Automoto et Psychologie Magazine. Les titres comme Elle, fleuron de la presse féminine, sont toujours rentables mais ils le sont moins depuis quelques années. Il y a 10 ans, Lagardère active la partie du groupe qui gère les médias, générait 2,3 milliards d'euros. L'année dernière, le chiffre d'affaires n'a pas atteint les 900 millions d'euros. Une baisse considérable à tel point que la branche média du groupe Lagardère ne représente aujourd'hui que 12% du chiffre d'affaires total. Arnaud Lagardère a donc décidé de se recentrer sur des activités plus rémunératrices comme l'édition avec Hachette par exemple et de commerce dans les gares et les aéroports avec les magasins relais. Reste maintenant à savoir quel sort sera réservé à Europe 1, au JDD et à Paris Match. Ils seront sans doute les derniers médias du groupe à être vendus, profitant d'une meilleure influence politique. La radio du groupe Lagardère pourrait rapidement être sur la sellette. Les dernières audiences d'Europe 1 publiées il y a deux jours restent faibles. Elles sont désormais talonnées par celles de la radio musicale Skyrock.
Maïwenn Bordron, côté météo, ça reste très ensoleillé sur la majeure partie du pays, avec tout de même des pluies sur le Cotentin dès ce matin qui vont s'étendre sur la Normandie dans l'après-midi. Les températures entre 21 et 28 degrés au meilleur de la journée.